L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.
Pascal Crossi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur de bande dessinée et vous avez obtenu une reconnaissance internationale avec votre album Auschwitz qui a reçu le prix de l'Assemblée nationale en 2000. Avant de parler de vos ouvrages, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous ?
Sur le plan personnel, je suis autodidacte, si vous voulez savoir, dans le monde de la bande dessinée.
Comment est-ce que vous êtes devenu auteur de bande dessinée ?
Disons que le monde artistique est un monde de luxe, et c'est vrai que le monde de la bande dessinée est le cinéma du pauvre, je dirais, parce que j'aurais préféré faire du cinéma, mais pour être réalisateur, pour faire un film, ça demande beaucoup plus de moyens qu'une bande dessinée, et c'est pour ça aussi que j'ai voulu démontrer en faisant Auschwitz qu'avec un crayon, du papier bien sûr, et quelques cotons de tige, je pourrais estomper qu'on pouvait réaliser en fait un livre. Donc c'est plutôt une frustration de ne pas faire du cinéma, voilà.
Vous avez fait beaucoup d'albums. Hein. Comment est-ce que vous choisissez vos sujets ? Quelles sont un peu vos sources d'inspiration ?
C'est les coups de cœur du moment. C'est vrai que j'ai horreur de faire une série. Je serais incapable parce que déjà, une bande dessinée, ça dure une année de travail en général. Et j'ai tellement peur de mourir entre deux albums que voilà, je préfère faire un album, une histoire. Et c'est plus varié. C'est vrai que c'est agréable de changer d'époque, changer pas de style, parce que le style reste toujours plus ou moins le même, mais voilà, ça me ferait peur de passer 4 années sur une série d'albums. Je suis trop pressée et en ce moment, voilà, je voudrais faire un storyboard pour un film que je voudrais réaliser parce que à travers la bande dessinée, c'est vrai que c'est un moyen d'attirer peut-être des producteurs à travers, non pas un scénario, parce que je sais qu'un scénario envoyé à une maison de production ne servira pas à grand chose, mais si j'apporte un storyboard, ça sera peut-être plus justifié et plus légitime pour pouvoir faire un film.
Et donc, vos sources d'inspiration par rapport aux ouvrages que vous avez réalisés, vous avez donc, il y a Auschwitz, mais il y a aussi plusieurs ouvrages sur Dracula et puis sur des personnages féminins. Pourquoi ces sujets ?
Les sujets des vampires, non pas pour le côté érotique et le sang, mais peut-être pour le côté le mythe éternel. Hein. Et c'est vrai que je me suis plus intéressée à la littérature anglo-saxonne que la littérature française. C'est assez curieux d'ailleurs les comportements. Les Français sont plus attirés par peut-être des fresques historiques, l'intimisme parisien peut-être, ou les polars qu'on appelle ça entre guillemets. Et c'est vrai que quand on rentre dans une librairie anglo-saxonne, notamment en Angleterre, on sont plus attirés par le monde des sorcières, des fantômes, des vampires. C'est vrai que quand vous prenez une petite grand-mère d'Angleterre, elle sait, quand on parle de Dracula, elle sait de quoi on parle. Non. C'est vrai que nous, on est très dans un débat à table, en général, en famille. Les gens sont très terre-à-terre en France. Les anglo-saxons sont plus liés à l'imaginaire et une petite différence de caractère. Et je me sens plus proche de ce monde-là. Nous, en France, pareil dans le cinéma, on a plus accès, sauf pour une jeune génération qui s'accentue plus vers une ligne fantastique parfois, mais c'est vrai qu'il y a quand même chez nous. C'est un peu comme le monde, la façon de filmer est différente en France et par rapport aux anglo-saxons.
Comment est-ce que vous travaillez le scénario et le dessin ?
En général, bon, je fais le scénario, mais c'est vrai que je me laisse inspirer aussi par rapport au dessin. Je n'ai pas une grande technicité sur le plan du dessin, donc j'essaie de faire de mon mieux. C'est pour ça que j'aurais préféré faire un film, parce que je sais qu'un film, vous avez un décor, des personnages, et vous placez votre caméra où vous voulez. Dans le dessin, c'est différent. Vous devez choisir l'angle de vue et en même temps faire le décor et les personnages devant vous. C'est un peu complexe, quoi. Il faut penser à deux choses à la fois. Le cinéma, donc, me paraît plus simple. Et il y a des choses qu'on peut faire aussi en film qu'on ne peut pas réaliser en dessin. Je suis un peu obsédée par l'envie de faire un film, c'est vrai.
Vous êtes complètement obsédée, oui, par l'envie de faire un film.
Merci.
Vous allez en faire un ou pas ?
J'aimerais bien, mais ça dépend pas que de moi, en fait. Voilà, ça demande des intérêts. En fait, j'ai l'impression d'ailleurs qu'un réalisateur passe 12% de son temps à créer. Le reste, c'est plus une affaire de chef d'entreprise qu'autre chose. C'est vrai que je me suis aperçu qu'en faisant une bande dessinée, on passait la plupart de son temps à créer. Et la relation avec le problème économique, après, c'est un problème avec l'éditeur. Mais au cinéma, ça demande tellement de jonctions de personnes entre eux. Puis c'est un monde de luxe. C'est vrai qu'on se permet au cinéma des sommes astronomiques. Le livre est différent, quoi. Ça est moindre, en fait. On peut faire, comme je vous disais tout à l'heure, avec un crayon et un papier, on fait dessus quelque chose. Ça coûte moins cher.
Est-ce que vous êtes dans un état d'un particulier, un état d'esprit particulier quand vous créez? Comment ça se passe un petit peu, le processus de création pour vos bandes dessinées?
C'est vrai que je ne m'amuse pas en dessinant. J'essaie toujours de progresser, de faire de mon mieux. Alors ça, c'était plutôt un moment de stress. Il y a d'autres personnes qui dessinent, qui font des bandes dessinées, sont plus dans l'amusement. Et c'est vrai que je ne m'amuse pas du tout quand je dessine, ça me stresse. Et j'essaie de faire toujours progresser. Donc, sinon, je pourrais peut-être travailler toujours de la même manière. Il est plutôt humoristique, j'en sais rien ici. Je voudrais tellement que l'image soit parfaite que voilà, c'est toujours dans l'effort de vouloir réussir mieux. Toujours.
Vous êtes un perfectionniste?
Oui, mais c'est pas bon des fois aussi. Maintenant, avec l'âge, je m'abandonne un peu plus. Mais c'est vrai que c'était il y a des années, c'est très angoissant. Alors faire un film, je pense que c'est encore plus angoissant. Ça dépend pas que de vous.
Vous allez venir avec quels ouvrages à la fête du livre en quai de Sorgue? Qu'est-ce que vous allez proposer?
Tous les ouvrages seront représentés. En fait, il y aura des albums de fond. Comme, quand je parle de fond, certains albums sont liés à l'esthétique, comme Dracula, où il y a un graphisme, une ambiance. Après, il y a d'autres livres comme Auschwitz qui sont des travaux de fond, comme Césium 137, où c'était un coup de tête de ma part parce que je trouve que par rapport à la violence de l'information ou en général de l'image, j'ai joué avec la censure et je trouve l'information en fait nous montre souvent des images, une forme de voyeurisme. C'est ce que j'ai découvert aussi en allant à Auschwitz. Je trouve qu'il y avait des exagérations de montrer j'appelle ça les aquariums où on montre les reliques des cheveux, des prothèses. J'ai entendu des gens dire, un père à son fils dire, viens voir, c'est encore mieux dans l'autre salle. Le marché de l'horreur, en fait, on rentre pas dans un musée comme Auschwitz, en fait, avec comme dans un train fantôme. Enfin, c'est pas, on fait des, on a l'impression que des fois, ça limite par d'attraction, comme autour de Tchernobyl, la ville de Pripyat, il y a des tours opérateurs organisés. Je trouve ça un peu, voilà, obscène, vulgaire, comme l'information quand elle filme des gens en train de mourir en direct. Et voyez-vous, en fait, cette pornographie macabre que je nomme n'est jamais censurée au-delà, c'est moins de 16 ans, parfois pour certains films, la violence. Mais la différence entre le sexe et la violence, c'est que la violence n'est pas sur le même plan d'égalité que le sexe. C'est ce qui termine ces marchands de jouets, les jeux de guerre, pas les jeux de sexe. Le tabou sexuel est lié aux judéo-chrétiens, enfin, du monde judéo-chrétien, pardon. Et la censure voilà, sur la violence est différente.
Césium 137, donc vous pouvez nous dire un peu plus précisément de quoi il s'agit?
Il y a des choses que je nomme, en fait, la pornographie macabre. C'est une journaliste, en fait, c'est un peu moi qui connectais à l'époque, je collectais plein d'images sur la violence à travers les films, jeux vidéo, les informations et. Ouais, j'ai fait un lien avec tout ça à travers une journaliste et c'était surtout pour déclarer voilà, que la pornographie macabre existait, qu'elle n'était pas interdite hein, au moins de 18 ans.
On va peut-être parler un petit peu quand même d'Auschwitz du coup. Comment l'idée vous est venue de faire cet album, de travailler sur ce thème?
Peut-être, c'est vrai que les manuels scolaires que nous avions à l'époque... ne parlait jamais des camps de déportation. Alors c'était pour moi une curiosité parce que c'est vrai que quand je voyais le premier souvenir, c'était à la télévision où j'avais vu donc le bâtiment du camp d'Auschwitz-Birkenau et je me rappelle d'avoir ma tante et ma grand-mère éteindre poste téléviseur enfin à l'époque et à chaque fois que je voyais ce bâtiment, j'étais attirée de savoir ce qui s'était passé et aucun manuel scolaire en fait. Il faut savoir que en troisième, voilà, je me rappelle d'une petite vue de camp d'Auschwitz-Birkenau avec un extrait de texte Et des fois, on se demande si Emmanuel Scalaire n'était pas un peu négationniste à l'époque. J'en sais rien. Mais c'est vrai que c'est ma curiosité d'en savoir plus sur le sujet. Donc j'ai voulu rencontrer après des témoins, comme j'étais à Paris, pouvoir les interroger et faire ma propre enquête. J'aurais pu, bon, à travers les livres, les historiens, mais c'est intéressant d'avoir affaire aux personnes qui ont vraiment vécu les faits, car ces personnes-là, c'est une façon de remonter le temps, comme une machine à remonter le temps, et vous posez n'importe quelle question et vous aurez une réponse. Tandis qu'à travers les historiens, on manipule l'histoire, et tant qu'il y a des survivants, on peut encore avoir cette relation de questions-réponses et de vouloir faire en fait une forme de reconstitution, comme le fait par exemple la police judiciaire, à travers une enquête, et bien en faisant une reconstitution, en faisant un film, une fiction, une pièce de théâtre ou un livre, ça permet de poser d'autres questions, comme je vous dis, comme fait la police judiciaire quand elle, après un fait divers, remet les personnages en place, ou une maquette par exemple aussi, ça peut servir.
Est-ce que, alors on va revenir au film, est-ce que, quels sont vos projets?
Le projet de film, c'est une intrigue amoureuse. Il n'y aura ni érotisme, ni pornographie à l'intérieur, juste un seul baiser de provocation. C'était surtout un jeu des mots d'amour, mais il n'y aura aucun geste physique, ce sera surtout par le verbe. Mais l'histoire, c'est lié à l'histoire du château de Sévérac, en fait avec l'histoire de la duchesse d'Arpajon, Gloria de Thémines, qui, d'après la légende, s'est fait assassiner par son époux, le duc d'Arpajon, voilà. Donc c'est autour de cette histoire, mais j'ai donc romancé les choses, c'est pas un livre historique. C'est pas un film historique, enfin, si ça devient un film. Voilà. Pour l'instant, ça restera un livre, parce que je vais faire un storyboard accompagné du scénario, accompagné de photos des lieux, des costumes dessinés pour faire un bon book de présentation afin d'attirer un producteur éventuel. Ce qui est difficile dans le monde du cinéma, c'est aussi qu'il faut montrer qu'on a réussi à faire un court-métrage. Mais moi, mon pari, c'est aussi de montrer aussi qu'on peut faire un long-métrage. Et si, je veux en faire qu'un long-métrage, je vais pas embêter longtemps le monde du cinéma. Et je trouve qu'à Sévérac, on a par exemple des costumes pour le son et lumière, ils ont aussi un club vidéo-son, un matériel suffisamment sophistiqué pour faire un film, et c'est dommage de l'utiliser uniquement pour les fins d'année, pour filmer des danses de fin d'année scolaire, je sais pas, des spectacles de théâtre. Et je pense qu'il y a les moyens de faire un film à peu de budget, donc peut-être avec la région ou autre région, affilier deux régions ensemble. Mais c'est vrai que c'est pas mon truc de vouloir essayer de concilier les personnes pour pouvoir, je vous dis, c'est un peu comme un chef d'entreprise pour réussir un film. Je ne suis pas dans cet état-là, mais voilà, je fais confiance à mon travail. Donc voilà, en faisant un storyboard, je pense que je vais être une chance plus que d'envoyer un scénario découpé seulement par l'écrit. Et c'est pour ça que j'ai transposé d'ailleurs mon scénario en une forme de roman, parce que c'est plus lisible pour un producteur. Peut-être, voilà. C'est un pari. On verra bien.
Qu'est-ce que vous attendez de la fête du livre en quai de Sorgue?
Je ne connais pas. Parce que je ne savais pas si c'était un salon du livre ou un salon de bande dessinée. Donc je sais que c'est un salon du livre. Comme tous les rencontres, peut-être aussi éventuelles de rencontrer des personnes pour faire ce film. Je ne sais pas. Je suis pas souvent en dédicace. Depuis des quelques années, je n'allais pas souvent en dédicace. Maintenant, je le fais plus souvent. Ça me permet de rencontrer des personnes pour éventuellement différents projets. Mais particulièrement pas Saint-Affrique, parce que c'est pas très loin de chez moi aussi, Saint-Affrique, Sévérac, le château.
Ok, bah merci Pascal Crossi.
Merci à vous.
On vous retrouve dimanche 19 mai à la fête du livre en quai de Sorgue.
La nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du ciel apparaît la lune rousse. Saisie d'une sainte frousse, tout le commun des mortels croit voir le diable à ses trousses. Valet, volage et vulgaire, ouvrez mon sarcophage, et vous pages pervers, courez au cimetière, près de
les amis nécrophages, que ce soir nous sommes attendus dans les marécages. Voici mon message. Cauchemars, fantômes et squelettes, les siffleurs aux îles noires, près de la mare aux oubliettes, venus du sphère obligatoire. Elfe follet, elfe faune et farfadet, c'est Fred mes grands carnassiers. Une muse un peu dodue me dit d'un air entendu, vous auriez pu vous raser. Comme je lui fais remarquer deux, trois pendus attablés qui sont venus sans cravate. Ah, vous avez remarqué. Elle me lance un œil hagard et vomit sans crier gare quelques vipères écarlates. Vampire ébloui par de lubriques vestales, et géris insatiables chevauchant des valkyries, infernales appétits de frénésie bacchanale qui charme nos âmes envahies par la mélancolie. Envoie satyre, joufflu, bouc émissaire, gargouilleuse émue, fière gorgone. Laissez ma couronne aux sorcières et mes chimères à la licorne. Soudain les arbres frissonnent, car Lucifer en personne fait une courte apparition. Qu'on lui donnerait volontiers le bon Dieu sans confession. S'il me laissait malicieux courir le bout de sa queue devant ses yeux maléfiques, et ne se dressait un bon dans un concert de jurons, disant d'un ton pathétique que l'état des obscènes, cyniques et corrompus a su grief de leur peine. Ciel blanchi, esprit, je vous remercie de m'avoir si bien reçu. Cochez lugubre et bossu, déposez-moi au manoir et lâchez ce crucifix. Décrochez-moi ces gousses d'ail qui déshonorent mon portail et me cherchez sans retard. L'ami qui soigne et guérit, la folie qui m'accompagne et jamais ne m'a trahi.
Originaire de Granville dans la Manche, Yann Gourmelin s'est fixé à Castelnau-le-Lez, où il est directeur adjoint à la MJC. Épris de littérature, Yann Gourmelin a publié son premier livre en 1997. Depuis, romans, nouvelles, chroniques se sont succédés. Dans son huitième opus, Le chemin du bonheur, il défend l'art de vieillir avec humour. Le chemin du bonheur est publié aux éditions de l'Enclave. Extrait.
Je fixe l'horloge. Je l'ai acquise dernièrement chez le brocanteur de Nantes. Elle travaille son chemin face à mon lit. Sa mission s'avère plus manifeste que la mienne. Qu'importe la traque du poète, le temps se moque des interrogations et de ceux qui les composent. Il avance. Je peux détester l'horloge de tout mon soul, dénoncer le cœur de son balancier hypocrite, le doigt des secondes, le bras des heures, l'épaule des jours et le corps des ans. Rien ne changera. l'éternité bâtit l'inéluctable. La révolte n'est qu'une poignée de sable remise entre les mains liquides d'un fleuve. Le meurtre des secondes s'achèvera en crime. Un jour, le meurtrier poussera la porte. Il se moquera de mes confidences, de mes supplications. L'idéal serait de l'attendre en invité. Peut-être réussirais-je à rire, ou mieux, à lui dire son fait à propos des tourments qu'il verse en chacun de nous. Tout à l'heure, j'avais hâte de me retrouver seul. Pourtant, avec mes compagnons, j'aime lutter contre le dénuement du vieillissement, avec le rire et ses filles de dérision. Mais aujourd'hui, je n'ai plus envie de badiner, ni de croire à nos manières rustres et forcées pour nous persuader de la force noueuse des vieux arbres. On m'a volé une vieillesse que j'avais imaginée. Imaginer vieillir, exercice périlleux. Pourtant, j'avais accepté le principe d'une progression dans le temps, houleuse et stérile, avec Annie. Notre confort bourgeois aurait rendu l'attente confortable. Nous devions vieillir face à face, évoluant d'un pas boitillant et syncopé, comme on entame le pas d'une valse aux accents mélancoliques. Nos douleurs nous servaient de repères, apparitions, atténuations, inquiétudes. Désormais, deux meubles en contreplaqué s'accordent pour meubler une pièce où les murs blancs fredonnent un air de clinique. Enfin, je peux me dire qu'au Vialard, on me fait la cuisine, sans discuter. Quant au ménage, la zébrée un peu forte s'y applique. Anita ou Catherine, je ne sais plus, et qu'importe. Sourire engelé, son regard traîne, empesé d'habitude. Elle porte en permanence des gants en plastique. C'est dommage. Certes, j'aime l'élégance, mais l'hygiène me froisse. Mené par un Julien impitoyable, soutenu par Giuseppe, volontiers complice, et André, qui évoquait pour s'en défendre un plaisir didactique, il arrivait qu'il se déguise en revêtant la chemise blanche d'une infirmière, oubliée sur un chariot. Il se présentait alors comme des coiffeurs à un Alzheimer ou autre dément. Pendant qu'André faisait le guet, ciseaux en main, il accablait leur victime d'une coupe au bol, et pour finir, la saupoudrait d'une laque fluo remplie de paillettes. Le résultat à chaque fois menait à une révolution de palais. La directrice, furibonde et outrée, jaillissait de son bureau pour interpeller des filles affolées qui tâchaient vainement de faire parler le ou la sinistrée, mais sans résultat, faute de mémoire immédiate. Bien que fortement soupçonnés, les compères renouvelaient l'opération de temps en temps, en variant par coquetterie les couleurs de la laque. Dernièrement, toujours grimés en zébré, ils avaient emmené un de ces indigents à la porte des cuisines tout en lui expliquant qu'on allait changer sa couche et qu'il devait d'abord l'enlever par lui-même. Il s'était éclipsé avant le drame qu'il ne tarda pas. Porté par un cuisinier, homme fort, à l'accent marqué et roulant des os doigts. Descendant probable des sombres cathares et pas vraiment doué pour l'humour. Les filles, les zébrées comme les nomment mes compagnons, ne sont pas forcément aimables. L'hiver, alors que leur charge de travail s'accroît et que certains d'entre nous se fâchent avec la santé jusqu'à en mourir, on peut entendre. « Si tu tombes dans ta pisse, je t'y laisse !» et d'autres variantes de bout de nerf. Les couloirs des Vialards ont ce défaut. Ils amplifient les petites phrases et Étienne, notre Suisse, le sait bien. C'est vrai qu'entre les mâchoires de l'hiver tombent trop de corps lourds et douloureux que les filles doivent relever. Trop de draps gelés par l'urine. Trop d'odeurs dans les chambres. Chargés d'effluves de terre. Trop de regards effrayés qui, matin après matin, perdent leur flamme au profit de la cendre. Et le râle dégrippé. L'hiver, les filles s'apeurent et leurs mots prennent trop d'élan.
L'association Arts et Livres vous présente la fête du livre en Quai de Sorgue.
Interviews et lectures de textes sur Radio Saint-Aff.
La fête du livre en Quai de Sorgue, c'est dimanche. À partir de 10h.